Format 3 qui, ce matin, vous propose un sujet santé. On va s'intéresser à l'aphasie. L'aphasie, un trouble de la communication.
Alors, comment est-ce qu'il va se manifester? Comment réagir et comment se soigner?
Avec nous, Sarah Mong, logopédiste au sein du Centre Hospitalier Bienne. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, l'aphasie, c'est quoi?
Alors, l'aphasie, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un peu plus professionnel un trouble du langage acquis. On parle acquis parce que ça se met en opposition à des troubles dits développementaux qu'on connaît peut-être un petit peu plus dans la logopédie, c'est les troubles du langage chez les enfants. Chez nous, dans le cadre d'une aphasie, ça touche plus particulièrement en général les adultes. Ça peut être lié à une lésion cérébrale notamment.
Alors justement, ça se manifeste comment? Les mots qui sortent plus, on les connaît, on sait comment les prononcer, mais ça sort plus.
Alors ça peut être une partie de l'aphasie, notamment au niveau de la production. En fait, si on découpe un peu le langage, si on visualise un peu le langage, il y a plusieurs modalités. Il y a d'une part la production, donc là c'est effectivement ces mots qui sortent plus comme il faut, ou alors d'une manière un peu déformée. C'est typiquement ces personnes qui veulent parler d'un chat et puis en fait ils parlent d'un chien, ou bien alors en voulant dire chat, il y a totalement un autre mot qui sort avec une déformation au niveau des sons. Mais il peut aussi y avoir des troubles au niveau par exemple de la compréhension, où on pose des questions à ces patients et puis ils tapent complètement à côté, répondent complètement à côté, ou simplement des patients qui ont parlé d'avoir une impression de langue étrangère en face d'eux. Et puis, ce qui fait aussi partie du langage qu'on a tendance parfois encore à oublier, c'est des versants comme la lecture, ou bien l'écriture, ou dans ce cas-là, c'est la lecture des textes qui peuvent être touchés, ou simplement de la lecture au niveau du mot même, ou alors l'écriture tout basiquement au niveau des données personnelles. Ils ont des difficultés à écrire leur nom, leur prénom, leur adresse, ou bien même plus au-delà, d'écrire des courts textes, ça devient compliqué. Puis on peut se représenter dans notre société comme quel trouble est-ce que ça peut du coup entraîner quand on a un peu de peine à écrire.
Vous l'avez dit, lésion cérébrale, donc ça va venir de quoi? D'un accident, d'un AVC par exemple, un accident vasculaire cérébral ou d'autres choses?
Alors c'est majoritairement lié en général à un accident vasculaire cérébral, hein, que ce soit donc ce qu'on appelle l'hémorragie, c'est-à-dire qu'il y a rapidement, d'un point de vue un petit peu plus médical, qu'il y a un vaisseau qui saigne au niveau du cerveau, alors un vaisseau qui se ferme à cause d'une occlusion. Ça peut aussi être dû à une tumeur cérébrale ou bien un traumatisme crânien. Dans certains cas aussi, il y a une aphasie qui se développe dans certaines démences. Dans tous les cas, en général, c'est des lésions cérébrales qui sont au niveau de l'hémisphère gauche, dans la majorité des cas, et qui provoquent ensuite une aphasie.
Il y a d'autres symptômes qui peuvent accompagner cette aphasie?
Alors, malheureusement, puisque l'aphasie est due à une lésion cérébrale, c'est très rare qu'il y ait une aphasie qui est une lésion cérébrale qui touche uniquement la zone du langage. En général, les ondes cérébrales sont un petit peu plus étendues et forcément, ça a tendance à toucher encore d'autres zones cérébrales, ce qui fait qu'on a quasiment tout le temps d'autres atteintes neurologiques. Ça peut être une paralysie sur le plan moteur d'une moitié du corps, par exemple, qu'on appelle une hémiplégie, ou alors d'autres troubles qu'on appelle cognitifs, du type une difficulté à utiliser les objets, ce qu'on appelle une apraxie, des difficultés au niveau de la mémoire, des difficultés au niveau de la concentration, parfois un ralentissement de manière générale. Donc malheureusement, c'est très rare que ce soit seulement le langage qui soit touché.
Sarah Mong, est-ce que c'est quelque chose qui est réversible?
Alors c'est difficile de parler de réversibilité dans ce cas-là. Tout dépend de comment est-ce qu'on prend en charge, en parlant de l'AVC, en parlant plus précisément de l'AVC, ça dépend comment est-ce qu'on prend en charge l'AVC. On a fait beaucoup d'avancées d'un point de vue médical qui permettent de prendre en charge l'AVC de manière beaucoup plus précoce. Donc les petits messages publicitaires dont on parle à la télé, dont on dit « chaque minute compte », c'est pas des bêtises. C'est de cette manière-là qu'on traite le mieux finalement, dans un premier temps l'aphasie, en prenant en charge le plus rapidement possible l'AVC. Ensuite, là où notre rôle en tant que logopédiste intervient, c'est une fois que l'AVC est arrivé, ma foi c'est comme ça, c'est par la thérapie qu'on essaye de faire en sorte de pouvoir accompagner les patients pour qu'il y ait une récupération au niveau des capacités langagières. Chez des patients où on a pris en charge très précocement ces AVC, il peut y avoir une réversibilité totale. Parfois, certains patients décrivent simplement encore quand ils sont fatigués, une petite difficulté, ce petit mot qu'on a sur le bout de la langue, qu'on n'arrive pas à trouver, nous, en fin de soirée, en général. Vous n'êtes pas à l'aphasique, vous inquiétez pas. Mais ces patients, c'est de temps en temps, parfois, un peu plus poussé. Et puis, dès qu'ils sont fatigués, ils ont un peu plus de peine à trouver des mots. Malheureusement, dans certains cas, quand les conséquences de l'AVC sont un peu plus graves, il y a seulement une récupération partielle qui peut être possible. Mais dans ce cas-là, en thérapie, nous, on accompagne au mieux les patients pour leur donner d'autres outils pour pouvoir communiquer au mieux.
Alors justement, quand vous parlez de ce travail, de cette évolution, il y a votre travail, il y a aussi le travail du patient qui est excessivement important. Il y a des exercices à faire qui sont parfois finalement des exercices qui paraissent tout bêtes, mais qui peuvent rapidement donner des résultats intéressants.
Alors malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait une recette à pouvoir donner. Ce qui est d'ailleurs très intéressant dans notre métier, c'est qu'on est obligé d'adapter la thérapie selon chaque patient, puisqu'il y a autant d'aphasie, si on peut dire ça comme ça, qu'il y a de patients souffrant d'aphasie. Et puisque le langage est quelque chose d'intimement culturel, de tellement personnel selon notre quotidien, on adapte la thérapie selon chaque patient, selon leurs envies, selon leurs besoins, par exemple professionnels typiquement. Mm-hmm. Après, il y a simplement des petits exercices de temps en temps, mais là encore c'est très lié à chaque patient et selon leur capacité, ce qui est préservé, ce qui l'est moins. Mais finalement, le langage est un petit peu partout dans notre vie quotidienne, donc il y a toujours des petits exercices qu'on aime bien donner, qui sont faciles à faire à la maison, du type quelques mots croisés. Là encore, par contre, ça peut être compliqué pour certains patients de les faire, mais des petits jeux qu'on peut faire en général à la maison. Mais autrement, le gros de la thérapie, on le fait plutôt ensemble dans des thérapies régulièrement, en général hebdomadaires, soit en thérapie individuelle, soit en thérapie de groupe.
Jamais 203. Format A3.
Et ce matin, nous sommes avec Sarah Mung, elle est logopédiste au centre hospitalier Bienne.
Et on découvre ce qu'est l'aphasie, des troubles du langage qui surviennent après des lésions au cerveau.
Alors Sarah Mung, comment est-ce que se déroule le premier contact avec le patient atteint d'aphasie? La première chose que vous allez faire, c'est voir l'étendue des dégâts.
Alors tout d'abord, on a deux manières d'avoir un premier contact avec les patients. C'est soit des patients qui sont admis à l'hôpital suite à directement à un AVC, donc la phase très aiguë, ce qu'on appelle la phase aiguë de la maladie. Dans ce cas-là, on les accueille au hospitalier de Vienne. Sur l'unité stroke, ce qu'on appelle l'unité stroke, qui est une unité spécialisée qui traite plus particulièrement des cas des AVC. Et dans ce cas-là, le premier contact qu'on a, c'est non seulement pour voir effectivement quelle est l'étendue des dégâts, mais surtout et d'avant tout voir quelles sont les capacités qui sont préservées pour pouvoir permettre aux patients et offrir aussi à l'entourage et puis au personnel médical une possibilité de communiquer le plus simplement avec les patients. Dans ce cas-là, on le fait vraiment lorsque les patients sont juste en phase aiguë, ils viennent d'avoir l'AVC, où on va faire une première évaluation du langage pour voir effectivement qu'est-ce qui va, d'abord, dans un premier temps. Un autre setting, une autre manière qu'on a de voir, d'avoir un premier contact avec des patients, c'est plutôt en ambulatoire, où dans ce cas-là, c'est les patients qui ont eu un AVC, qui sont plutôt maintenant ce qu'on appelle dans la phase chronique, parfois 2 à 3 mois après l'AVC, qui sont passés par des phases de réhabilitation, qui sont retournés à la maison, et qui viennent ensuite chez nous, comme on viendrait peut-être en physiothérapie, où ils viennent une fois par semaine, par exemple, pour continuer de travailler sur le langage, où là aussi, le premier entretien est en général ce qu'on appelle une anamnèse, savoir quelle est l'histoire des patients, l'histoire langagière aussi, qu'est-ce qui leur est arrivé. Et puis, là aussi, de faire une évaluation langagière pour savoir quelles sont les capacités préservées, celles qu'ils sont un peu moins, afin d'établir ce qu'on appelle des objectifs thérapeutiques qu'on va ensuite essayer de remplir notre mission, plus ou moins, ensuite dans les prochaines thérapies, les prochaines séances qu'on aura ensemble.
Alors, tout à l'heure, Sarah Mung, vous nous disiez, dans les manifestations de l'aphasie, il peut y avoir, par exemple, le fait de vouloir dire chat et de dire chien à la place, hein, des mots comme ça qui ne sont pas les bons. Est-ce que le patient, il a conscience de l'erreur qu'il est en train de commettre?
Alors, ça dépend des patients et ça dépend en général aussi un peu de l'atteinte cérébrale. Il y a certains patients qui ont ce qu'on appelle une jargon aphasie, un bon terme encore un peu professionnel, mais c'est, où ils parlent, où ça veut, il n'y a pas de contenu, ça ne veut rien dire, ils ne s'en rendent absolument pas compte. Et puis, le premier travail qu'on a à faire avec ces patients-là, c'est d'essayer de leur faire comprendre qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent, que ce qu'ils disent n'a pas de sens. C'est un premier travail. Il y a d'autres patients qui, malheureusement, par contre, ont totalement conscience de leurs troubles. Et en général, c'est des patients qui ont des gros troubles au niveau de la production orale, qui sont parfois mutiques, qui ont totalement conscience que ce n'est pas comme il faut.
Dans votre travail de logopédiste, on parle souvent d'aphasie, de troubles du langage. Il y a aussi quelque chose, et je me demandais si c'était lié, c'est en ce qui concerne la déglutition, parce que lorsque quelqu'un arrive à l'hôpital, l'une des premières choses que vous faites également, c'est de voir comment la personne va avaler, comment ça se passe avec la nourriture. Tout ça est très lié.
Alors, il n'y a pas un lien direct entre la déglutition et puis le langage en tant que tel, mais c'est vrai que c'est une des premières choses qu'on fait qui est très importante pour nous, pour savoir si les patients sont capables de se nourrir, parce que suite à un AVC, c'est bien qu'on en parle rapidement. Il y a en général quand même 65-70% des patients qui souffrent de ce qu'on appelle une dysphagie, donc là, c'est trouble de la déglutition. Donc là, on va tester aussi directement dans les premières heures suite à l'AVC. Le lien n'est pas direct. Disons que on traite aussi ces troubles-là parce qu'ils font partie d'un point de vue anatomophysiologique, l'anatomie ce qu'on apprend à l'INI, disons, si je peux dire ça comme ça, c'est tout ce qui se passe au niveau de la bouche aussi, des muscles qui sont liés à la déglutition, et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on intervient au niveau de la déglutition. Le lien est peut-être un peu plus marqué ou dans le cadre de ce qu'on appelle par exemple des paralysies faciales, on peut avoir des troubles au niveau de l'articulation. Là, c'est pas trouver les mots qui peinent, mais c'est vraiment l'articulation où les patients décrivent parfois qu'ils ont comme l'impression d'avoir bu le verre de vin un petit peu trop, qu'il y a la langue qui est un petit peu lourde. Et ça peut arriver dans le cadre des AVC aussi.
Sarah Mung, quand vous travaillez avec des patients, vous préférez travailler individuellement ou plutôt en groupe? Est-ce que le groupe va favoriser la parole et puis ensuite il y aura des exercices à faire en dehors?
Alors, en général, les premières prises en charge sont d'abord individuelles, où c'est important pour nous d'avoir un contact avec les patients et d'instaurer ce qu'on peut appeler une relation thérapeutique. Mais sur du long terme, on aime beaucoup privilégier aussi les thérapies de groupe, simplement parce que non seulement, effectivement, ça stimule la parole, alors c'est pas seulement un groupe d'entraide où les patients viennent discuter, on fait vraiment des exercices qui sont très ciblés sur le langage, mais simplement, le groupe, c'est aussi un endroit qui permet aux patients de voir qu'ils sont pas seuls, qu'il y a d'autres personnes qui souffrent aussi de leurs troubles de langage. Et puis, il y a beaucoup d'échanges à ce niveau-là ensuite sur leur maladie, qu'est-ce qui leur est arrivé. Donc, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup privilégier. À côté de ça aussi, on est un petit peu, on est sévère, mais on donne en général aussi un peu des choses à faire à la maison. Simplement parce que dans une phase après un peu plus chronique, on n'a pas le temps de voir les patients tous les jours. Et c'est bien s'ils arrivent à stimuler le langage tous les jours. On stimule de manière générale dans le quotidien, mais avec un petit peu plus et quelques exercices à la maison, c'est très bien. Ça aide beaucoup. On essaye aussi de jouer, faire beaucoup de jeux de rôle, par exemple, pour que les patients se retrouvent en confiance dans des situations de communication, puisqu'on utilise le langage, malheureusement, tout le temps et tous les jours, dans presque toutes les situations.